J'aimerais parler avec vous d'un Dieu qui nous questionne et qui nous interroge. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Dieu est un Dieu qui nous questionne. Dès le début de la création, Dieu va poser trois questions à l'homme. On lit ensemble le texte dans la Genèse. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, première question, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai fait défendu de manger? Wow. Oui, Dieu pose des questions, hein. En introduction, nous allons voir que cette manière de faire du Seigneur est une manière fréquente. Pour avoir travaillé dans le milieu de l'éducation, c'est quelque chose qu'on nous apprend aussi à poser des questions et à mener les personnes à y répondre par eux-mêmes. Et quand on fait ainsi, la personne retient mieux, elle apprend mieux. Si elle a découvert par elle-même quelque chose, ça va davantage être gravé dans son cerveau que si elle l'a appris par quelqu'un d'autre. Hein, vous avez expérimenté ça, je suppose. Et Dieu, bien sûr, il n'a pas besoin d'avoir fait les écoles de pédagogie, il sait exactement comment s'y prendre avec nous. Et une des manières dont il s'y prend, c'est de nous interroger. On voit cette attitude aussi dans son fils Jésus, lorsqu'il est sur terre dans son ministère. Hein, et j'aime beaucoup les fois où les hommes de loi viennent vers lui, lui posent une question. Et Jésus, au lieu de répondre à la question, il pose une question lui aussi. Et dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu va être amené à pousser l'homme à s'interroger. Nous venons de le lire. Est-ce que vous avez repéré les trois questions? Première question. Où es-tu? Deuxième question. Qui t'a appris que tu es nu? Troisième question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Voilà, c'est les trois questions qu'on va voir ce matin. En quoi ces trois questions peuvent nous parler ce matin? Parce que je ne suis pas Adam, je ne suis pas Ève, vous non plus. Mais nous savons que les Écritures nous ont été communiquées pour qu'aujourd'hui on en tire aussi nous-mêmes des leçons. Première question. Où es-tu? C'est le verset 9 que nous avons lu tout à l'heure. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ici, on peut voir deux choses. On pourrait en voir plus, mais j'ai relevé deux choses. D'abord, Dieu interpelle l'homme sur l'absurdité qu'il y a à se cacher devant lui. C'est assez intéressant de voir que Dieu interpelle l'homme sur ce point. Adam et Ève sont dans la culpabilité. Ils ont bien compris qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça vous arrive jamais, vous. Et donc, réflexe, c'est quoi le réflexe? Les enfants, ils font quoi hein, quand ils ont fait une bêtise? C'est pas moi, c'est pas moi. Et Adam et Ève se cachent. C'est d'un ridicule absolu, mais en fait, ne nous moquons pas trop d'eux, parce que nous, parfois, nous voulons nous cacher. Alors que nous savons très bien, Hébreux 4, verset 13 nous le dit, nulle créature n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est clair ou c'est pas clair? On ne peut pas se cacher. On essaye de se cacher, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. La question « Où es-tu ?» Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est dit que la voix, on entendait la voix dans le jardin. Alors, je ne sais pas, hein, je ne pose pas une doctrine. Là. Mais on essaye toujours de savoir comment ça se passait. Mais ce qu'on sait, d'une manière sûre, c'est qu'il n'y avait pas, il n'y avait aucune barrière entre Dieu et sa création à l'origine. Et là, d'un seul coup, ce qui met une barrière, c'est le fait que l'homme ait désobéi. On l'a bien compris, il s'agit ici de la chute originelle et qui fait qu'aujourd'hui, bien, Paul déclare que nous sommes tous pécheurs. Et on voit qu'il y a la voix qui retentit et je me dis que certainement il y avait des moments où Dieu passait dans le jardin pour venir parler avec l'homme et avec la femme, avec ses créatures. N'est-ce pas ce que Dieu veut faire aussi avec nous? Est-ce qu'il ne veut pas, à des moments, croiser notre route pour qu'on parle avec lui? Il veut nous mettre en relation. Je vous rappelle que nous avons la chance de vivre sous la nouvelle alliance et que ce qui était au départ a été recréé par le deuxième Adam. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous afin que nous puissions à nouveau avoir cette relation. Et Dieu cherche, Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui. C'est clair, c'est net. Et donc, il veut établir cette relation. Et la question « Où es-tu ?» c'est certainement ce matin doit résonner dans nos cœurs. Où es-tu quand je t'appelle? Où es-tu quand je veux parler avec toi? Où es-tu quand je veux passer un temps avec toi? Combien de rendez-vous manqués? Rendez-vous donnés par le Seigneur. Oh, bien sûr, on a toujours un alibi. On a toujours une très bonne excuse. Ah, vous savez, pasteur, si vous connaissiez mon emploi du temps, etc., etc. Et puis, la famille, c'est important. Le travail, c'est important. Où es-tu? Où es-tu quand le Seigneur te donne rendez-vous? Où es-tu quand le Seigneur t'attend pour ton culte personnel? Où es-tu quand le Seigneur t'attend, présent ici dans cette église, pour les réunions entre frères et sœurs? Où es-tu quand le Seigneur te veut à tel endroit pour une visite, pour un temps de communion avec un frère ou une sœur, peut-être pour secourir quelqu'un qui est dans la difficulté? Où es-tu? C'est une question qui peut résonner dans nos cœurs ce matin. Le deuxième point que je verrai ici, c'est que Dieu interpelle l'homme aussi sur le fait de savoir où il en est. Je me permets d'ajouter... Où en es-tu aussi, le Seigneur pourrait nous dire ce matin. Où en es-tu? Dieu veut interpeller l'homme sur le fait de savoir où il en est. Vous savez que c'est salutaire, ce genre de question. Quand Jésus nous demande où en es-tu, ce n'est pas une question qui doit valoir, nous valoir de nous échapper. Hein. Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Ah! Et j'ai plus de réseau, là. Les questions qui nous interpellent. Mais en tous les cas, accepter de faire le point avec Dieu, c'est salutaire. Ne jamais s'interroger, c'est très dangereux, c'est même mortel, spirituellement. J'aime cette parole de David dans le psaume 119, où il dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que Dieu veut nous poser des questions. Et on ne veut pas fuir les questions. On veut faire face aux questions et réellement s'interroger sur ce que Dieu a à nous dire. On sait ce que nous dit Paul. On vient de partager le repas du Seigneur, et Paul nous dit, avant de le faire, éprouve-toi. Et la suite nous explique qu'il vaut mieux qu'on se juge soi-même et qu'on rectifie, plutôt que ce soit Dieu qui vienne rectifier. Vous le comprenez cela? Et combien de fois, malheureusement, on attend que Dieu rectifie, alors que si on l'avait fait nous-mêmes, ça aurait été tellement mieux. La deuxième question qui est posée, qui t'a appris que tu es nu? C'est le verset 11, le début du verset 11, c'est l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? En fait, ici, Dieu demande aussi deux choses à l'homme. Dieu lui demande premièrement, qui es-tu allé écouter? Le seul interlocuteur qu'ont Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est Dieu. Ils ont de la chance, hein? Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah, tout ça, c'est pas la peine. Il n'y avait que Dieu. Ils n'entendaient que Dieu. En gros, c'est génial, non? Vous n'aimeriez pas? Vous avez l'air enthousiaste, ça fait peur. Ah oui, ah oh, les columérins, ça va? Il faut arrêter de regarder les Jeux Olympiques jusqu'à minuit, 1h du matin, là, hein, parce que vous êtes complètement explosé là. Dieu nous demande qui tu écoutes. C'est qui ta référence? Qui tu écoutes? Qui t'a appris que tu es nu? Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14-15, j'aime tellement cette parole que l'apôtre Paul donne à Timothée, où il exhorte en lui disant, toi, écoutez les enfants, ça vous concerne. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Vous lisez bien ça avec moi? Sachant de qui tu les as apprises. Attention de qui on apprend les choses. Et je le répète des milliers de fois, mais je le répète encore ce matin. Tout ce que vous écoutez sur Internet, même les prédications, faites bien attention. Oh, moi, pasteur, j'écoute toute la journée des prédications. Attention. De qui tu apprends les choses? De qui tu te nourris? Attention. Fais bien attention. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Amen. Qui peuvent te rendre à salut par la foi en Jésus-Christ. Les enfants, vous avez cette chance en ayant des parents chrétiens de connaître dès votre enfance qui est Jésus et de savoir que quelqu'un est venu pour vous sauver et pardonner vos péchés. Vous avez cette chance que beaucoup de vos camarades n'ont pas. Et ce que dit l'apôtre Paul, il dit « demeure dans ces choses, garde ces choses, gardez-les, même si ça vous fait râler. Oh, on m'oblige à venir à l'église, ouais, j'en ai marre, moi. » Ouais, moi je l'ai dit, hein. Quand j'étais ado. Et aujourd'hui, je dis merci, papa et maman. Et oui. Vous connaissez le psaume premier? Un heureux celui qui médite jour et nuit. La parole qui vient de Dieu. Pas la parole des moqueurs, des gens de compagnie, les gens du monde. Mais celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Je crois que c'est important de s'interroger. C'est quoi qui a du poids dans ma vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui a du poids dans ma vie? Ou est-ce que c'est la parole du monde? Et derrière la parole du monde, la parole de l'ennemi. Aujourd'hui, le monde nous envoie des informations, le monde nous donne des principes de vie. Est-ce que c'est ça que nous écoutons ou est-ce que nous restons sur ce que dit la parole? En fait, au travers de ça, Dieu demande à l'homme qui inspire sa vision des choses. Avant d'avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève vivaient nus et ça ne les dérangeait pas. Ça nous fait bizarre, hein? Ça nous fait bizarre de penser ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a eu aucune once de mauvaise pensée en eux. Ils ne voyaient pas le mal, ils étaient comme Dieu en fait. Ça, c'est difficile à comprendre. Mais moi, souvent, j'y pense quand je vois les petits-enfants, mes petits-enfants, ou quand j'ai vu mes propres enfants. Dernièrement, on était avec nos deux petits jumeaux. Il y avait un petit endroit pour se baigner. On est allé se baigner. Ils ont 3 ans. Bah, ils ont enlevé leurs sous-vêtements et ils ont mis leur maillot de bain devant tout le monde sous la plage. Et vous les voyez, ils sont là. Mais ils n'en ont rien à faire. Nous, on ne pourrait pas faire ça. Enfin, j'espère. Et en fait, ça me fait penser que, ben, à l'origine, c'est des choses. Je ne veux pas que ça vous dérange ce que je dis. Hein. N'interprétez pas mal. Mais l'homme était créé tellement pur que ces choses-là ne le dérangeaient pas. Et les choses comme Dieu les avait établies, l'ennemi est venu donner une autre parole, une autre vision des choses. Et il a tout détruit, tout pollué. Et aujourd'hui, nous sommes sous cette influence. Mais gloire soit rendue à Dieu. Hein, comme le dit l'apôtre Paul, qui me délivrera du corps de cette mort? Gloire soit rendue à Dieu. J'ai la vie en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai la vie en lui. Il est venu transformer par son esprit. Il m'a redonné l'état d'esprit d'origine. Amen. Gloire à Dieu. Je veux avoir la vision que Dieu a du monde et pas la vision des hommes. Pas la vision de Satan. Amen. On a l'exemple de Jacques et Jean. Hein, dans Luc 9, 54-56, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, parce que les gens n'ont pas voulu héberger Jésus, parce qu'il allait à Jérusalem, alors ils disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. De quel esprit sommes-nous animés? L'Esprit de Dieu est venu sur nous. À partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu sur nous, habiter en nous. Amen. Quelle grâce! Ensuite, la visitation du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, encore une autre dimension de la vie de l'Esprit. Et pourtant, on se rend compte que malgré ça, ce sont nos raisonnements ou l'influence de l'ennemi qui dirige notre vision des choses. Nous voulons redonner au Seigneur la place qui lui est due. Amen. Nous voulons être à son écoute, à lui. Nous voulons réaliser l'esprit qui nous anime. L'esprit qui m'anime, c'est une puissance, c'est une vision révolutionnaire des choses. Amen. Une autre vision des circonstances. Je pense aux 12 espions. 2 étaient animés de l'esprit, 10 ne l'étaient pas. Ils ont vu la même chose, mais les conclusions n'étaient pas les mêmes. On est OK? Devant la même chose, on peut avoir une attitude complètement opposée. Soit on est animé par nos raisonnements ou par l'esprit du diable, soit on est animé par l'esprit de Dieu. Il est dit que Josué et Caleb étaient animés de l'esprit de Dieu. Amen. Moi, je veux être un Josué, un Caleb dans ma génération. Vous aussi? Amen, il y en a 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Troisième, dernière question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Genèse 3, 11. Et l'Éternel Dieu dit: Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est aussi de se dire: Dieu nous pose des questions alors qu'il connaît les réponses. Vous avez remarqué ça aussi? Moi, quand je pose une question à quelqu'un, sauf des fois quand je veux prêcher le faux pour savoir le vrai, bon. Mais en règle générale, quand je pose une question à quelqu'un, c'est que je ne sais pas. C'est pour ça que j'interroge la personne, puisque moi, je n'ai pas l'information. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous pose des questions alors qu'il a l'information. Dieu sait très bien où est Adam. Il sait très bien qu'il est en difficulté. Il sait très bien qu'il est en difficulté parce qu'il est nu et pourquoi il est dans cette difficulté. Et il sait très bien qu'ils ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre défendu. Au travers de cette question, Dieu veut nous encourager à quelque chose d'essentiel, mes frères et sœurs. C'est reconnaître notre péché et le confesser. C'est une chose basique, hein, que je vous dis ce matin. Vous êtes au courant de tout ça. Mais c'est tellement important. Et on voit que ce n'est pas si facile. Alors que pourtant, ça c'est une chose que je rencontre dans les entretiens avec des personnes qui découvrent l'Évangile, ils ont du mal à accepter que le simple fait de confesser son péché nous donne d'obtenir le pardon du Seigneur. Il faut forcément que ce soit plus compliqué. Il faut forcément que je paye un prix. Je ne peux pas avoir le pardon comme ça, juste en disant, ben, Seigneur, oui, je reconnais, je suis un imbécile, j'ai pas assuré. Pardon, Seigneur. Et juste ça, ça suffit à obtenir le pardon. Non, c'est pas possible, pasteur, qu'est-ce que vous me racontez? Ben, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. 1 Jean chapitre 1, verset 9, c'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Vous connaissez ce passage. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier des iniquités les moins graves. C'est bon, il n'y a personne qui suit. Je me fais ignorer. C'est un grand moment de solitude ce matin. Il pardonne toute iniquité. Il n'y a pas un péché. Ce n'est pas si quelqu'un est sous une culpabilité particulière ce matin, avec quelque chose de lourd, de grave qu'il a fait. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Par contre, là où on peut comprendre cette simplicité, si on se met à la place de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, si moi je lui dis que je suis désolé et que j'en pense pas un mot, ça ne marche pas. Si mon enfant vient me dire « Ah, papa, je suis désolé », mais qu'il s'en moque, mais moi je vais le pardonner. Il m'aura bien eu. Mais avec Dieu, on ne peut pas faire ça. Dieu voit notre cœur. C'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça. Il faut que le pardon soit sincère. Mais si le pardon est sincère, alors tu peux croire sans condition, sans payer aucun prix, parce que le prix a été payé par Jésus-Christ, tu peux croire que tu es pardonné de ton péché. Amen. Je dis souvent, on prêche la conviction de péché, et moi je veux prêcher aussi, avec la conviction de péché, la conviction de pardon. Parce que si on n'a que la conviction de péché, dès le départ, c'est le message de la repentance. Amen. Dès le départ, c'est le message de la repentance. On sait que c'est les premières prédications des évangiles, Jean-Baptiste, Jésus, on dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Les mêmes prédications. Or, la repentance, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile. On le voit dans les évangiles avec les pharisiens qui disent « Nous, oh nous, on a besoin de se repentir, pourquoi ?» Et on rencontre, hein, en tant que pasteur, souvent on rencontre cette attitude de gens qui sont très sincères. Ils viennent et quand ils entendent parler de se repentir du péché, « Mais moi, j'ai rien fait de mal, pourquoi je devrais me repentir ?» Eh oui, pas évident. J'ai pas le temps, mais il faudrait définir ce que ça veut dire péché, hein. Le péché, c'est ce qu'ont fait Adam et Ève, ils ont désobéi. Donc celui qui dit qu'il n'a jamais péché, c'est quelqu'un qui peut affirmer ce matin, à chaque seconde de ma vie, j'ai fait la volonté de Dieu et rien d'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Le seul qui l'a fait, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est dit qu'il était sans péché. Nous, on dit, ouais, c'est parce qu'il n'a pas commis les péchés sexuels, les machins et tout ça. Il a été pur et tout. Non, non, c'est bien plus que ça. Jésus a accompli parfaitement la volonté de son Père à chaque seconde de sa vie. Amen. On voit qu'on a de la marge, hein, pour être à égalité avec lui. On voit aussi que c'est difficile de se repentir parce qu'on a la facilité de rejeter la faute sur les autres. Vous avez remarqué? Non? Ben, c'est ce que fait Adam. Verset 12, quand il est interrogé, regardez bien ce qu'il répond à Dieu. Ça va plaire aux dames. La femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça, c'est typiquement humain. Mais c'est pire que ça. Hein. C'est pire que ça parce qu'il sous-entend pas que c'est de la faute de la femme seulement. C'est aussi la faute de Dieu parce qu'il a mis la femme avec lui. Et s'il n'avait pas fait ça, au moins ça ne serait pas arrivé. Voilà la mentalité qu'on a. Comme si Adam aurait besoin d'Ève pour faire ça. S'il avait assumé, s'il avait été meilleur qu'elle, il aurait dit « Eh oh, non, non, Dieu a dit qu'on ne devait pas en manger, c'est non. » Allez, tu parles. Donc nous, pas vous, hein, moi. Moi, quand il y a un problème, mon premier réflexe, c'est de dire « Ah, c'est la faute. » Et des fois même, « Et alors, Seigneur ? Et alors, Seigneur ? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais ? Et pourquoi t'as permis ça, Seigneur ? Et alors ?» Il n'y a que moi qui fais ça. D'où, après, la difficulté de se repentir. Alors que ce qui nous délivre, c'est pas de chercher des excuses, c'est de nous mettre à genoux et de dire « Seigneur, pardon. » C'est ça qui va nous libérer. Amen. Je conclue ces moments avec... Je vous fais la grâce de ne pas lire le psaume 119 en entier. Mais lisez le psaume 119. Il est extraordinaire, ce psaume. C'est un hymne à la parole. Une glorification de la parole de Dieu. Deux extraits. Le verset 24. « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Est-ce que j'ai besoin que Dieu me conseille ? Lorsqu'il vient me poser des questions, c'est pour me conseiller. Psaume 119, 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Moi, je me trouve bien simple devant Dieu. Très, très simple. Et j'ai besoin qu'il m'éclaire. Et oui, je veux dire merci, Seigneur, pour les questions que tu me poses. Même si elles sont dérangeantes, tu peux me poser les questions, Seigneur. Je veux bien. Je veux être interrogé par le Seigneur, être remis en question par lui. Je ne veux pas qu'il me laisse tranquille. Nous, c'est ce qu'on voudrait, hein, avoir notre vie de chrétien tranquille. Zéro remise en question, tout va bien. Mes petits chaussons, mon confort, aucune remise en question et tout va bien. Mes frères et sœurs, soyons heureux à chaque fois que Dieu vient nous interroger. Que ce soit par une lecture personnelle, que ce soit par une prédication, que ce soit par un don spirituel, que ce soit parfois juste une discussion avec un frère, une sœur, parfois même de manière totalement inattendue. On a des témoignages de gens qui se sont laissés interroger par Dieu en regardant un film païen, en étant au travail, un collègue de travail non converti qui leur sort une question ou une phrase, et ping, la lumière s'allume, le Seigneur parle. C'est pas moi qui le dis, hein. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a pas, nous, on veut verrouiller tout ça. Hein. Dieu parle comme ci, comme ça. Dieu parle comme il veut. Dieu parle comme il veut. Il nous interpelle même par les pécheurs souvent. Soyons heureux à chaque fois que Dieu vient nous interroger. Il le fait non pas dans le but de nous piéger, mais de nous sauver. Amen. Nous, on n'aime pas les questions dérangeantes. Et ça y est, qu'est-ce qu'il me veut ? Mais c'est pour notre salut. Amen. Dieu connaît le moyen de nous sauver. Lui seul a cette capacité, cette possibilité. Dans ce récit de la Genèse, on voit que Adam et Ève, étant dérangés par leur nudité, ils l'ont couverte avec des feuilles de figuier. Se sont fait des petits... Mais Dieu ne va pas en rester là. Dieu va leur donner des vêtements de peau. Alors vous allez dire, ouais, Dieu, quand même. Mais il y a une image extraordinaire. Cette image du sacrifice. Parce que pour avoir des peaux d'animaux, il faut les avoir tués avant. Et c'est la première fois depuis la création qu'un animal est tué Pourquoi? Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Et déjà, au travers de cela, Dieu annonce qu'il prévoit le salut pour l'homme. Et aujourd'hui, ces peaux qui nous recouvrent, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est le manteau de Christ sur nos vies. Christ qui nous rachète, qui met sur nous ce vêtement blanc qui fait que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce que Dieu voit, c'est non pas notre péché, mais il voit le fait qu'on a été lavé et purifié par Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Dès la jeunesse, dès la chute, Dieu prévoit le moyen d'être sauvé. Au verset 15, il est dit « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. » Le serpent va être vaincu à la croix. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux, à nous tenir devant Dieu ensemble. Dieu veut t'interroger, Dieu veut t'interpeller ce matin encore. Peut-être pour l'instant es-tu seulement dérangé par cela. Je t'invite vraiment à faire le pas et à dire « Seigneur, oui, j'accepte que tu m'interpelles ce matin. » On a vu différents points, je ne vais pas revenir dessus. Mais je sais qu'au moment où ça a été dit, tu as pu être interpellé dans ton cœur. N'enfouis pas cela, n'enterre pas cela en disant « Non, j'ai rien entendu. » Non, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a mis dans l'interrogation sur un point ce matin, alors tu vas devoir t'occuper de ça. Tu vas devoir t'occuper de ça. Si c'est le fait que tu manques les rendez-vous du Seigneur, n'accepte plus que Dieu puisse dire « Où étais-tu alors que j'étais là, je t'attendais ?» Le Seigneur veut nous encourager ce matin à rétablir une communion avec lui, à être présent au rendez-vous qu'il nous fixe, peut-être aussi dans ta vie d'église. Est-ce que tu n'as pas négligé ta participation ? Seigneur nous interpelle sur les influences dans notre vie. Qui écoutes-tu? Peut-être tu es en proie, on l'a vu au travers des chants, à l'épreuve, à des difficultés. Peut-être il y a l'adversité. Est-ce que tu écoutes la voix de l'ennemi ou est-ce que tu écoutes la voix de Dieu dans ces temps-là? Le Seigneur a parlé au travers des dons spirituels ce matin. Est-ce que tu as péché? Et tu ne t'es pas repenti? Est-ce qu'il y a... Je suis toujours frappé par l'exemple de David qui a eu besoin qu'un prophète vienne lui expliquer que d'avoir commis l'adultère et d'avoir comploté un meurtre, il avait besoin de se repentir pour ça. On se dit, mais c'est hallucinant. Mais en fait, on est pareil que David. Il y a des fois, on ne voit même pas qu'on a besoin de se repentir. On est tellement enfermé dans nos raisonnements, dans notre certitude qu'on a raison, je parle peut-être au niveau relationnel, on est tellement sûr qu'on a raison qu'on s'oppose à Dieu qui nous demande de nous repentir. Alors ne résiste pas à ces questions que Dieu te pose ce matin. Mets-toi à genoux devant lui et dis-lui, Seigneur, je capitule. Je veux faire ce que tu me dis. Viens à lui sans crainte. Laisse-toi interroger par lui parce que c'est ainsi que tu bénéficieras pleinement de son plan de salut pour toi. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Merci parce que tu veux interpeller ce matin. Je te prie aussi s'il y a une personne au milieu de nous qui ne connaît pas le plan de salut, la mort de Jésus à la croix, que cette personne puisse s'approcher de toi ce matin et dire « Pardon Seigneur d'avoir vécu sans connaissance de ces choses. Je veux ce matin venir me repentir pour mes péchés et venir accepter ce salut que tu m'as accordé à la croix. » Si quelqu'un parmi nous a ce besoin ce matin, qu'il fasse cette prière dans son cœur devant Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous bénis à chacun. Tous nous sommes interpellés ce matin. Tous nous sommes interpellés. Personne ne peut dire « Je suis parfait dans tous ces domaines. » Seigneur, viens encore nous renouveler. dans notre soif de te rencontrer, dans cette relation que tu veux établir avec nous, Seigneur, que nous ne soyons pas aux abonnés absents, mais soyons présents chaque fois que tu veux nous rencontrer. Seigneur, merci de nous donner de veiller à ce que, à nos influences et de déclarer, de prendre position pour que ce soit ta parole et ta parole seule qui conduise notre vie. Merci Seigneur, merci parce que tu nous amènes à la repentance. Ce n'est pas pour nous humilier, c'est pour nous élever, pour nous sauver. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ces temps de chant, de louange, pour ce temps de Sainte-Seine, pour tous ces moments ce matin. Nous voulons vraiment te rendre grâce et donner gloire à ton nom. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen.